pour Radio Droit de Cité, j'ai rencontré Sylvain Augier, animateur vedette de l'émission La Carte au Trésor, diffusée chaque été sur France 3. Il a bien voulu me recevoir et répondre à quelques questions.
Le fait que vous soyez présentateur de la carte au trésor, c'est de votre initiative ou on vous a demandé de la présenter?
On est venu me demander de la présenter, mais il y avait déjà un a priori depuis 5 ans. Je filmais déjà la France vue du ciel en hélicoptère, puisque je suis pilote d'hélico privé, pilote privé. Et j'avais eu l'idée de proposer ça à Michel Drucker pour Studio Gabriel, son émission quotidienne de 19h tous les soirs. Et le fait que je sois pilote, que j'ai déjà proposé, j'ai déjà filmé la France dans tous les sens, et le fait que j'ai connu 10 ans avant, ça datait déjà d'il y a 10 ans, l'équipe de prod de la carte, de la chasse au trésor, eh bien ça a donné l'idée à la même équipe de production qui lançait la chasse au trésor de venir me proposer de la présenter. Donc si vous voulez, c'est un peu un... à la fois parce que je correspondais au profil, parce que j'avais déjà un peu d'expérience en la matière, et mieux vaut être pilote pour faire ce que j'ai à faire dans l'hélicoptère, parce que on vole énormément, il faut aimer voler et voler le dos à la route, comme je le dis souvent, parce que je vois même pas ce qui se passe derrière moi, ce qui est toujours gênant pour un pilote, mais je fais extrêmement confiance à Franck Arestier, qui est le pilote de l'hélicoptère blanc. Tout ça fait qu'on est venu me le proposer, que j'ai été le seul nom avancé en fait pour présenter cette émission, que j'ai naturellement dit oui tout de suite.
Pour voir plus en détail dans les coulisses de l'émission, combien de personnes travaillent sur l'émission?
Il y a exactement 21 personnes qui produisent cette émission, parmi lesquelles je compte les 4 pilotes d'hélicoptère, puisqu'il y a 4 hélicos, les 5 caméramens, 5 ou 6 ingénieurs du son, et tout ce qui concerne la production, c'est-à-dire Christophe Cosset, le producteur qui gère tout du sol, les conducteurs des voitures, il y a 5 ou 6 voitures, les assistants, les régisseurs, la maquilleuse, l'habilleuse, puisque tout le monde doit avoir sa panoplie, sa combinaison de vol impeccable, ceux qui s'occupent aussi des candidats. Ça fait 21 personnes au total, ce qui est peu finalement pour une émission qui nécessite beaucoup de moyens.
Comment vous choisissez les sites sur lesquels vous allez faire les émissions?
Il y a plusieurs paramètres. Le premier est bien sûr que la région que nous survolons doit être télégénique, qu'elle doit être belle à regarder d'en haut. Ensuite, qu'il y ait matière à raconter des histoires et donc à construire des énigmes autour de l'histoire ou de la géographie de la région que l'on va survoler, que l'on va visiter, puisqu'on ne fait pas que la survoler. Il y a bien entendu aussi le fait que des régions nous aident financièrement parce qu'elles sont intéressées par la promotion touristique que cela représente. On va naturellement davantage vers les régions qui nous aident que celles que ça n'intéresse pas. Et enfin, disons le côté attirant que peut avoir une région, mais là c'est du domaine de l'irrationnel. Il faut du relief. À dire vrai, il faut beaucoup de relief.
Alors qui prépare les énigmes dans l'émission?
Christophe Cosset, qui est à la fois celui qui ensuite sera au sol et me guidera avec son micro pour me dire où sont les candidats, ce qui est en train de se passer, bref, pour m'assister au maximum. Mais c'est lui qui construit les énigmes de telle façon qu'il y ait des rebondissements et de telle façon que les candidats suivent des pistes différentes et arrivent... pas forcément en même temps, ils peuvent très bien suivre des pistes complètement fausses puisqu'il y a beaucoup de pièges qui leur sont tendus, mais c'est Christophe qui rédige les énigmes après avoir repéré au sol et rencontré aussi les personnages que nous rencontrerons dans l'émission ensuite. C'est lui qui bâtit vraiment tout de A à Y, j'allais dire, le Z étant le rôle que j'ai à tenir à ce moment-là.
Comment sont sélectionnés les candidats qui jouent dans l'émission?
Ils sont sélectionnés de façon très sévère. Pour vous donner une idée, quand on lance les candidatures, on le fait par voie d'annonce dans deux ou trois grands journaux nationaux. Il y a 2000 ou 2500 réponses. Là-dessus, il faut trouver les 40 ou 50 bons candidats. Alors, ça commence par un entretien, un peu comme un entretien d'embauche. Quelles sont vos motivations? Pourquoi faites-vous ça? L'entretien est filmé, revisionné. Il y a déjà un premier tri énorme qui se fait. Il y a plus des deux tiers des candidats qui sont éliminés à ce moment-là. Ensuite, reste le dernier tiers sur lequel il faut, sur 300 personnes, arriver à trouver les 40 ou 50 que l'on cherche. Et là, tout joue. Leur sourire, leur façon de s'exprimer, leur physique aussi, le fait qu'ils soient télégéniques ou pas, leur aisance, leur gentillesse, leur débrouillardise. On leur fait faire des tests pour voir s'ils réagissent vite et bien. Et ensuite, on leur fait faire, pour la dernière épreuve qui doit vraiment les départager complètement, on leur fait faire des épreuves exactement comme ils auront à les résoudre ensuite avec un caméraman, c'est-à-dire qu'on les lâche dans Paris avec une énigme impossible à résoudre, ne serait-ce que pour voir comment ils se débrouillent avec les gens dans la rue qui ne s'attendent pas à leur arrivée, exactement comme ça le sera dans l'émission, puisqu'ils rencontrent toujours des gens qui ne s'attendaient absolument pas à les voir débarquer comme ça avec leur combinaison, leur casque. Et ils sont d'ailleurs habillés de la même façon pour les tests qu'on leur fait faire avec un caméraman qui les suit. On visionne et là, le choix se fait quasiment définitivement et en général à l'unanimité. Maintenant, on sait à peu près exactement le genre de candidat qu'il nous faut.
Alors, des fois, j'ai remarqué dans l'émission que on dirait que les pilotes et les caméramans ont tendance à connaître les réponses en fait avant les candidats.
Non, c'est une impression que vous avez. Les pilotes ne savent absolument pas de quelle épreuve il s'agit et les caméramans, alors là, encore moins. Si vous avez cette impression-là avec les caméramans, c'est parce que le caméraman est tellement investi du rôle qu'il a en termes d'équipe qu'il veut absolument aider son candidat et qu'il cherche à lui faire poser les bonnes questions, à trouver la bonne réponse, à chercher l'endroit dans lequel est planqué l'indice, la bonne question qu'il faut poser à quelqu'un. Donc il est très très motivé et on l'entend d'ailleurs souvent, hors cadre évidemment puisqu'il tient la caméra, booster son candidat. Quant aux pilotes, ça je peux vous garantir qu'ils ne savent absolument pas où ils vont parce que ils ont repéré à peu près avec nous la veille du tournage de l'émission 40 ou 50 sites d'atterrissage. Alors là on les repère jusqu'au posé final pour voir s'il n'y a pas de ligne à haute tension, s'il n'y a pas un piège, des rabattants, bon enfin bref, tous les pièges aéronautiques et même réglementaires en termes de réglementation aéronautique qu'il faut connaître, mais ils ne savent absolument pas quand ils repèrent les champs dans lesquels on les fait se poser, de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un leurre? Est-ce que c'est l'énigme numéro 1, la 2, la 3, la rose des vents, le trésor? Ils ne savent pas. Donc ils peuvent matériellement absolument pas aider leur candidat. Mais ils essayent. Ça fait partie de leur rôle. Ils font partie de l'équipe. Donc même l'ingénieur du son qu'on voit assis à côté du candidat peut lui donner une idée quand il feuillette son carnet de route. Mais je peux vous dire que ni le caméraman, ni l'ingestion et encore moins le pilote ne savent où ils doivent aller. Ça a été un écueil d'ailleurs de la reprise de l'émission quand à l'époque Nathalie Simon et Patrick Chen co-présentaient l'émission. Nathalie connaissait les énigmes et le public le sentait très vite. Et on ne trompe pas le public.
Vous êtes parfois tenté d'aider un ou une candidate dans le jeu?
On me dit que de temps en temps j'aide plus une candidate que le candidat, pour parler clairement. J'ai pas cette impression-là. Je sais l'énorme influence que j'ai sur eux au moment où ils sont perdus dans la campagne, qui ne savent pas où ils vont, qui ne savent pas du tout où en est l'autre candidat. Et je sais très bien que je peux en freiner un en lui disant « Dis donc, tu es bien sûr de ce que tu viens de me dire, répète-le-moi. » Et du coup, ça jette un doute dans son esprit et ça le freine. Ça s'est fait de façon volontaire de ma part pour que l'autre revienne dans la compétition. Et en revanche, c'est vrai que je peux être tenté, et je le fais, d'aider le candidat complètement perdu pour le remettre dans la bonne voie sans lui donner la solution, mais en lui disant « Tiens, c'est drôle, tu viens de me dire quelque chose que... Répète-moi ce que tu viens de me dire. » Et là, il sent qu'il vient de mettre le doigt sur quelque chose. Donc j'ai un rôle énorme. Ils sont très fragiles, une fois qu'ils sont perdus dans la course. Le temps passe très vite. Donc effectivement, mon rôle à moi, c'est pas seulement d'animer, c'est aussi de faire qu'il y ait une vraie compétition. C'est peut-être pas juste, mais ça fait partie du jeu télévisé. Mais en revanche, en aucun cas, je n'empêcherai un candidat de gagner, ni non plus le mettrai sur la bonne voie plus que l'autre. Si jamais je donne un tuyau à l'un, je vais le donner à l'autre immédiatement aussi, tout de suite, toujours.
Parfois les candidats doivent traverser un fleuve et je sais pas si c'est le hasard, mais ils trouvent toujours un bateau à leur disposition pour pouvoir le traverser, ou des fois même deux. Est-ce que cela est fait exprès ou c'est vraiment le hasard?
Je vais vous faire rire. C'est vrai que quand il y a un bateau à prendre pour rejoindre le Rocher des Diamants en Guadeloupe, pour atteindre une ville qui est de l'autre côté d'un fleuve, on prévoit de laisser un bateau ou deux avec un pêcheur qui sont là et auquel on a demandé de rester là. C'est tout. Et bien, si je vous dis que dans 90% des cas, nos candidats tombent sur un autre bateau et s'arrangent pour demander à la personne qui a ce bateau-là de les amener, vous n'allez pas me croire. Et bien, je vous jure que c'est vrai. Souvent, ce qui est préparé ne sert pas, et c'était un autre bateau qui était là, ou un autre 4x4, ou un autre cheval, qui vont servir à faire la course dont a besoin le candidat. Mais c'est vrai qu'on prévoit quelque chose. Sinon, s'il se retrouve au bord de l'eau et qu'il n'y a rien, vous allez vous dire, c'est idiot, il est là, et l'épreuve se trouve à 300 mètres en pleine mer. Donc, bien sûr, on prévoit deux bateaux. Mais c'est pas forcément ces bateaux-là qui prennent, souvent. Et ça, c'est évidemment, ça nous fait beaucoup rire dans l'équipe, parce qu'on se dit, inutile de préparer des choses pour eux, puisqu'ils se débrouillent pour en trouver. Parce que vous savez, ils trouveront un radeau, ils se fabriqueront une pagaie, aussi bien, hein. On a vu des candidats d'une débrouillardise incroyable et arriver à faire courir un agent de police, un pompier, le maire de la ville. Ils sont tellement motivés, ils veulent tellement gagner qu'ils prennent n'importe quel moyen.
Lorsqu'un candidat a gagné le trésor de 30 000 francs, bon, on voit qu'il met la rose des vents, il ouvre un coffre et dedans on trouve un objet qui a une valeur de 30 000 francs. Est-ce qu'il remporte l'objet ou est-ce qu'il remporte un chèque de 30 000 francs ?
Il remporte un chèque de 30 000 francs. L'objet est fait pour faire rêver. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a fait une analyse d'audience. On en fait toujours après une campagne de tir, si je puis dire. Après 8 ou 10 émissions. On fait toujours visionner les émissions par un panel de téléspectateurs représentatifs. Et on fait aussi un interrogatoire général par téléphone ou par courrier. Et on s'est aperçu qu'en appelant cette émission La Chasse au Trésor, il faut qu'il y ait au bout un trésor et pas un chèque. Donc on fait gagner un rameau d'olivier doré, quelque chose qui a en général beaucoup plus de valeur d'ailleurs que la valeur du chèque lui-même. Mais bien entendu, quand un candidat remporte une épreuve et qu'il gagne 10 000 francs ou le trésor et qu'il en gagne 30, bien entendu, c'est un chèque, évidemment, heureusement.
Parmi les émissions donc, de la carte au trésor que vous faites depuis qu'elle existe, quel est votre meilleur souvenir ?
Moi, j'en ai tellement. J'ai adoré la Haute-Savoie, qui a été la dernière émission diffusée en septembre, le 1er septembre dernier, qui a d'ailleurs été l'émission la plus regardée de toutes et qu'elle a été vue par quasiment 6 millions de personnes. J'ai bien aimé celle-là et puis en plus, elle était dans des conditions météo épouvantables et on arrivait à se glisser à travers les problèmes météo parce qu'évidemment, quand on voit l'émission monter, on ne se rend pas compte des problèmes techniques qu'on traverse, mais ils sont colossaux. J'ai beaucoup aimé les deux émissions qu'on a fait en Corse, qui datent donc de cet été, et aussi celle qu'on a faite en Martinique et en Guadeloupe l'année dernière. Celle qu'on avait tournée au Sainte en particulier m'a laissé un souvenir impérissable. Mais c'est souvent parce que ce sont les émissions les plus difficiles à faire, qu'on croyait impossibles à réaliser et devant lesquelles on était en train de baisser les bras, qui d'un seul coup nous laissent passer, parce que c'est vraiment ça qui se passe, d'un seul coup les nuages s'espacent, ou alors on a la chance d'arriver à tourner ce qu'on croyait impossible, et d'un seul coup l'émission se fait. Alors, l'épreuve a été tellement dure pour nous, l'équipe, et pour les candidats, et l'attente quelquefois aussi, que quand ça se libère, et bien évidemment, ça fait les meilleurs souvenirs, parce que c'est là qu'on en a bavé le plus.
À l'inverse, parmi les émissions que vous avez faites, vous avez eu un mauvais souvenir que vous avez gardé ?
J'ai gardé des mauvais souvenirs quand les candidats se sont fait mal ou en ont vraiment trop bavé. Je pense à notre candidate dans le Jura qui s'est retrouvée coincée dans une cascade, bloquée par un rappel, sous une eau qui devenait glacée à cause d'un orage qui venait de se produire quelques heures plus tôt. La cascade était beaucoup plus importante qu'on ne le croyait. Elle a paniqué, l'eau est devenue de plus en plus importante, le débit est de plus en plus froide et on n'arrivait pas à la décoincer. Et elle criait au secours et on pouvait rien faire, il a fallu beaucoup de temps pour aller la chercher. Et là j'étais vraiment très soucieux pour elle, de même qu'à quelques jours d'intervalle, une jeune fille, une de nos candidates, est tombée de cheval et s'est fait une fracture du bras qui n'était pas grave. Mais bon, elle est tombée devant nous, j'ai vu son bras se retourner et se casser net et ça m'a fait frémir. Et puis je me suis dit que d'une certaine façon on était responsable de ce qui leur était arrivé. C'est pas du tout ce qu'elles ont dit elles. Elles nous ont toujours dit que, comme d'ailleurs tous les candidats qu'on a eus, qu'ils avaient accepté la règle du jeu, qu'on peut se faire mal en faisant du canoë-kayak, de l'escalade, du cheval, de la plongée. Tout ça est inclus dans tous ces sports à risque, entre guillemets. On essaie de les limiter au maximum, on met le plus de professionnels autour d'eux, mais il se peut qu'il y ait des pépins, comme ça arrive dans la vie. Quand on pratique ces sports, j'entends. Marqué qu'en prenant sa voiture aussi. Hein. Mais voilà, c'est les plus mauvais moments pour moi, c'est quand les candidats ont passé des mauvais moments et je me suis senti quelque part responsable de ce qui leur arrivait. À tort ou à raison, mais moi ça m'a laissé une mauvaise impression que j'aimerais pas revivre.
quel est le programme de l'année prochaine? Vous le connaissez, non?
On est en train de le préparer. La chaîne, qui est très contente des résultats de l'émission, nous a demandé d'en fabriquer 9 ou 10 autres. Alors, il est question d'aller en tourner 2 au Maroc, qui est après tout très francophile, dans l'Atlas. Il est vraisemblable qu'on en tournera une ou deux à La Réunion, dans le cirque de Mafate et dans le volcan, pour parler des deux sites précis. Reste à déterminer 7 ou 8 autres régions. Il y aura probablement les Pyrénées centrales, peut-être une région autour d'Annecy. On ira vraisemblablement du côté de la Bretagne qu'on a peu exploré, peut-être aussi le Pays Basque. J'aimerais bien qu'on aille dans les châteaux cathares. Et on reviendra sans doute du côté du Périgord ou du Lot, c'est pas encore certain. Ça se détermine en ce moment. C'est très long, vous savez, de préparer une émission. Hein. Avant de se mettre prêt à tourner avec les 4 hélicoptères, les 20 personnes et les 2 candidats, il y a une longue réflexion au départ et une longue préparation avant de commencer. Mais là, c'est en train de se mettre en route en ce moment.
Un dernier mot pour nos auditeurs?
Eh bien... J'adresse toutes mes amitiés aux auditeurs de Radio Droite Cité et ben j'espère que vous serez peut-être devant le poste au rendez-vous de la carte au trésor de l'été prochain. Au revoir à tous.
Merci, monsieur G.